famille.
Il rentre sans le petit, il dit oh, est-ce que je l'ai oublié.
On est des antiquités, hein, nous les adultes.
La Smala. La Smala.
Quand on entre dans l'école et qu'on voit les enfants, ils ont les yeux grands comme des 5 francs.
Laissez refroidir, démouler.
C'est bientôt Noël et nous parlons des belles familles. À Noël, vous allez célébrer les fêtes dans votre famille ou votre belle famille ?
En famille, mais oui.
Et le beau-père, la belle-mère, vous les oubliez à Noël ?
Oh, c'est le 25, le lendemain, mais oui, une fois d'un côté, une fois de l'autre.
Attendez, alors si vous allez dans votre belle famille le 25, ça veut dire qu'ils sont moins bien traités que votre famille ?
Mais c'est pour ça qu'on fait une année sur deux, le 24 chez les parents, puis le 25 chez les beaux-parents. On inverse chaque année. Comme ça, il n'y a pas de privilégiés.
En dehors de Noël, vous voyez à quelle fréquence votre belle famille ?
En principe, plusieurs fois par semaine, oui, ça dépend.
Donc vous êtes très proche de vos beaux-parents ?
Oui, tout à fait.
Ils sont pas trop envahissants ?
Non, pas du tout. Sinon, on les mettrait ou pas.
La parole de la rue recueillie par Xavier Bloch. Nous sommes en pleine période de fêtes et de repas de famille. Pas toujours simple d'organiser le planning des journées, des soirées, comme vous avez pu l'entendre. Chacun s'organise un peu comme il peut. On aimerait avoir le don d'ubiquité, pouvoir se dédoubler, mais c'est pas toujours possible. Comment contenter tout le monde ? Pas chose facile, compliquée, de ménager, la famille, la belle famille. Tout ça est affaire de négociation, me direz-vous. Eh bien justement, dans la Smala, nous allons parler de ces fêtes et parler à l'occasion de ces fêtes des rapports avec la belle famille pas toujours simples, comme va nous le confirmer une de nos invitées ce matin, Laurence Zimmermann. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et psychothérapeute. Vous allez nous accompagner durant cette heure pour évoquer ces rapports et les enjeux de ces liens qui se créent ou se créent pas d'ailleurs avec la famille du conjoint. On va y revenir. Vous recevez des gens dans votre cabinet. Est-ce que vous constatez particulièrement aux périodes de Noël que c'est une sorte de moment particulier et révélateur des rapports qu'on peut avoir avec sa belle famille ?
Alors on dit, c'est vrai que c'est une période où parfois les gens consultent plus parce que certains se sentent moins bien, parce que c'est vrai que c'est une...
Noël c'est déprimant.
Pour certains, Noël c'est une fête et pour d'autres, Noël c'est vrai que c'est des moments qui rappellent les conflits avec la famille.
Mais c'est quand même un objet d'enjeu de négociation, où on va passer la journée, où on va passer la soirée, qui on va ménager, comment, déjà entre deux partenaires, entre deux conjoints hein.
Alors c'est un voilà donc on va négocier comme vous dites c'est une fête où on réunit toute la famille, on essaye de se faire plaisir et c'est pas un moment où on va déclarer des hostilités, au contraire on va essayer de s'arranger, la plupart des gens s'arrangent.
Nicolas Jonas est sociologue, on va l'entendre dans quelques secondes, on entendra aussi le témoignage d'Éric grâce à Anouk Mertz qui va aussi nous accompagner pendant cette heure. Nicolas Jonas lui est sociologue, il est chargé de cours à l'université de Nanterre et il est sociologue spécialiste de la famille au sein de l'Observatoire de sociologie du changement et il s'est, lui, beaucoup intéressé aux belles familles et pour lui, Noël est la fête de tous les dangers.
Vraiment, c'est le moment important où il faut marquer l'égalité entre les deux familles, donc essayer d'alterner entre les deux familles. Ce qu'on peut dire, c'est que classiquement, comme c'est le moment où on s'échange des cadeaux, c'est un peu là où on va pouvoir mesurer son intégration effective dans la belle famille.
C'est-à-dire c'est affreux.
Ben oui, mais pas vraiment en termes de valeur de cadeau, mais est-ce qu'on a eu une pensée personnelle, on va dire, pour moi ? Est-ce qu'on me connaît suffisamment bien ? Est-ce que je entre au même titre que les autres dans les récipiendaires de cadeaux, par exemple ? Donc c'est un moment un peu tendu, mais un peu de jeu aussi. On essaie de faire vraiment plaisir à sa belle-mère ou vraiment plaisir à son beau-père. Et voilà, donc Noël, c'est un peu... On va dire que c'est un prisme d'observation très intéressant pour essayer de voir la qualité effective d'intégration dans la belle famille.
Mais je trouve pas ça très convivial un buffet le soir de Noël, non ? Pierre déteste. En plus, je connais papa, il va se mettre dans un coin.
Mon mari vient de crever, vous n'allez pas me faire passer Noël avec ce vieux con ?
Il y a déjà assez de problèmes dans le monde pour pas se faire encore plus chier avec Noël.
Pour Noël, si ça se trouve, j'aurai un bouquin sur le Louvre. Si ça se trouve, tes parents sont un tout petit peu chiants.
Pierre et moi, 2, les enfants, 4, Sylvie et Mathieu, 6, leurs enfants, 8, les parents de Pierre, 10, Louba, 11, papa, 12, tu viens toi finalement ?
Pas vraiment.
Ça veut dire quoi, pas vraiment ? Tu viens ou tu viens pas ?
Allez, je viens pas.
Mais tu es la bienvenue, tu viens avec qui tu veux.
Extrait d'un film qui s'appelle La Bûche, un film de Daniel Thompson qui se passe effectivement autour de Noël où on tente de réunir la famille. On en revient à ce que disait Nicolas Jonas, ces cadeaux qui sont plus ou moins révélateurs de l'attachement, de l'attention qu'on peut porter à l'autre. Laurence Zimmermann, c'est par ce genre de détails que les rapports avec la belle famille vont se tisser, vont se nouer ou vont se gripper d'ailleurs ?
Non, je pense que ça va au-delà de ça. Si problème il y a, je pense que c'est autour de choses beaucoup plus manifestes que ces problèmes se déclarent.
Dans votre pratique, dans votre bureau, on ne vient pas se plaindre des cadeaux de la belle-mère, on vient plutôt se plaindre de choses plus profondes, plus insidieuses.
Voilà, on se plaint et on ne se plaint pas, parce que justement, ce n'est pas toujours évident de comprendre finalement que les rapports avec la famille d'origine ou avec la belle-famille sont problématiques et posent des problèmes, par exemple, au niveau de l'entente du couple. Et c'est aussi pour ça que les gens viennent, c'est pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pose problème. Donc, les problèmes ne sont pas toujours manifestes. On peut avoir effectivement des critiques assez ouvertes ou par derrière du conjoint, de son caractère, de ses choix, de sa personnalité. Mais on peut aussi avoir d'autres comportements que j'appellerais des disqualifications, qui sont des critiques en fait un peu caché ou beaucoup moins déclaré. On va critiquer peut-être le choix de l'appartement qui a été fait, où le couple va s'installer. Voilà, ce sont des disqualifications, ce sont des critiques cachées en fin de compte.
Anouk Mertz, d'ailleurs, sur le net, il y a pléthore de forums et de choses consacrées.
Sur les forums, c'est une mine d'or. On trouve notamment pas mal de femmes qui se plaignent que la belle-mère, par exemple, a la clé de l'appartement. Et dès qu'elles sont en vacances, elles viennent vite nettoyer la salle de bain. Donc c'est tout de suite interprété comme « Bah voilà, ma chère, tu ne sais pas nettoyer ta salle de bain, moi je le fais mieux que toi ». Et l'interprétation, elle est toujours assez intéressante parce que même le compliment est mal reçu. Je suis tombée sur un forum, sur un exemple. Alors la demoiselle s'appelle Julie. Elle s'est sentie particulièrement blessée et mal à l'aise lorsque sa belle-sœur lui a dit lors d'une réunion de famille « Waouh, eh bien, ça te va super bien ce pull, ça fait ressortir tes yeux ». Alors au lieu de le prendre comme un compliment, elle s'est braquée, elle s'est bloquée, elle a interprété « super sympa, ça veut dire que
d'habitude,
généralement je ne sais pas m'habiller, on ne voit pas mes yeux, j'ai une sale tête ». Donc vraiment, quoi, c'est vraiment un endroit, la famille, la belle-famille, où tout se cristallise un peu à la négative. En tout cas, c'est ce qu'on lit beaucoup sur les forums, beaucoup de plaintes.
Alors moi, je trouve très intéressant ce que vous dites par rapport à l'histoire, par exemple, de la salle de bain, parce que ça témoigne typiquement d'une non-reconnaissance de l'intimité du couple. C'est-à-dire, la salle de bain, c'est un lieu intime et par définition, c'est un lieu où on n'entre pas. Où moi, j'ai entendu dire, par exemple, une belle-fille se plaindre que la belle-mère entrait dans l'appartement pour refaire le lit ou changer les draps. Et ça, c'est typiquement une non-reconnaissance, effectivement, du couple, de son intimité et du travail que peut faire, effectivement, la belle-fille, enfin, nettoyer sa maison. Hein.
Mais Laurence Zimmermann, il me semble quand même qu'on a moins de tolérance vis-à-vis des maladresses. Alors là, on était dans l'anecdote, mais on a moins de tolérance vis-à-vis des maladresses de sa belle-famille qu'à l'égard de celle de sa famille.
C'est vrai que c'est souvent admis, parce qu'on a toujours connu ça, peut-être, que ses parents font telle ou telle chose. On se rend même plus compte, peut-être.
On a grandi dans ce biotope-là.
On a grandi là-dedans. C'est vrai que par rapport à sa belle-famille, on est beaucoup plus sensible à l'accueil qu'on nous fait, à la façon dont on va être reçu, accepté, et peut-être même complimenté.
Il est naïf de croire que l'amour pour son conjoint va tout arranger. Parfois, les tensions, c'est vrai, avec la belle-famille, sont de vrais poisons pour la relation de couple. Nicolas Jonas, je me tourne vers lui, toujours sociologue, spécialiste de la famille et grand observateur de la belle famille. Et je lui ai posé la question, est-ce qu'on se rend toujours compte de l'importance de la belle famille ?
Pas du tout, c'est vrai que aujourd'hui on a tendance à nier l'importance de la belle famille, notamment parce que on n'est plus dans les logiques d'alliance entre parentés lors d'un mariage. On est plutôt dans l'idée du choix d'un individu par un autre. Et pourtant, lorsqu'on épouse ou quand quelqu'un ou lorsqu'on entre en couple, eh bien, on a une deuxième famille hein, qui nous tombe dessus. On la choisit pas, on n'a pas le temps de construire une histoire avec elle. Hein. Il faut composer avec elle. Et ça, c'est un objet assez tôt dans le cycle de vie du couple. C'est un objet de négociation, voire de tension entre conjoints.
On dit aussi dans cette étude que les hommes ont une définition plus souple des liens. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, Nicolas Jonas ?
En fait, on s'aperçoit que le spécialiste des affaires familiales dans un couple, c'est la femme le plus souvent que l'homme. Donc c'est elle qui a une espèce davantage stratégique pour favoriser sa parenté par rapport à celle de l'homme. L'homme, au contraire, qui se considère comme étant moins spécialiste de ce type de relation, va avoir un comportement beaucoup plus suiveur qui va le conduire, plus que la femme, à accepter que sa belle-famille entre dans sa définition de la famille, puisqu'il est amené à les rencontrer plus souvent. Eh bien, la parenté de la femme va rentrer le plus souvent dans sa définition de sa famille. Si on fait des entretiens, si on leur demande de lister les membres qu'ils considèrent comme étant des membres à part entière de leur famille, ils vont avoir plus tendance à considérer des membres de leur parenté par alliance que les femmes.
Avec parfois pour les hommes peut-être un rôle de tampon, d'arrangement, de prise de position, ce qu'ils prennent ou ce qu'ils ne prennent pas ?
Ce qu'ils prennent, on va dire à minima, en fait, ils font en sorte que les interactions avec leur belle-famille se passent relativement bien, et pour ça, on s'appuie le plus souvent sur des comportements qui sont assez caricaturaux, des comportements de genre assez caricaturaux. C'est-à-dire pour faire en sorte que ça se passe bien avec les beaux-frères ou le beau-père, on va se regrouper sur, on va dire, les références communes les plus minimales qu'on a. Par exemple, le groupe d'hommes va s'extraire pour boire un apéritif, quelque chose qui permet de ne pas vraiment s'engager, mais de faire en sorte qu'on respecte un principe de bienveillance, on va dire, avec les membres de la belle famille.
Et les femmes seront pendant ce temps-là dans la cuisine.
Voilà, ou à parler des enfants.
On choisit ses copains, mais rarement sa famille. Tiens, gonze mine de rien, qu'a marié ma frangine. Depuis c'est mon beau-frère, alors faut faire avec. Mais c'est pas une affaire, c'est un sacré pauvre mec.
Les beaux-frères et les belles-sœurs ont aussi un rôle à jouer dans les liens. Est-ce qu'ils sont importants finalement, ces liens avec beaux-frères et belles-sœurs, ou est-ce que c'est vraiment anecdotique ?
Non, ils sont importants, puisque on peut remarquer déjà que les relations en général entre frères et sœurs à l'âge adulte sont importantes. On les a longtemps sous-estimées, mais elles perdurent, au moins le temps que les parents sont encore en vie. Et les relations avec les beaux-frères, belles-sœurs sont souvent meilleures, en tout cas au début du cycle de vie, parce qu'ils entrent le plus souvent dans le cercle des amis. Dans un cas sur quatre, à peu près, on connaissait au moins un beau-frère ou une belle-sœur avant d'entrer en couple, si vous voulez, ils faisaient déjà partie du cercle des amis. Donc dans ce cas-là, ça se passe bien. Par contre, au fur et à mesure qu'on progresse dans la vie, qu'on a une trajectoire professionnelle, qu'on a des enfants, des éléments sont introduits pour qui risquent, on va dire, d'établir une hiérarchie entre beau-frère et belle-sœur. Et ça, c'est le premier élément de rupture de relation familiale entre beau-frère et belle-sœur.
Ça veut dire qu'il y a un moment où on choisit.
Alors, oui, il y a un moment où on choisit, mais il y a aussi un moment où on peut choisir sur le nombre de beaux-frères et belles-sœurs qu'on a, mais surtout au moment des réunions de famille, on peut s'apercevoir que des distances maintenant sont trop importante avec le beau-frère ou la belle-sœur, ce qui rend les situations de face-à-face, les situations d'interaction très délicates à gérer. Dit en d'autres termes, il y a un principe fondateur dans les relations beau-frère-belle-sœur, c'est un principe d'égalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un élément qui induise une hiérarchie trop forte entre deux couples, donc entre son propre couple et le couple du beau-frère ou de la belle-sœur. Si cette égalité de principe est rompue, d'une façon ou d'une autre, alors on a toutes les chances de voir apparaître une relation conflictuelle.
Chanson de Renaud, incontournable quand on parle des beaux-frères et des belles-sœurs, c'est un grand classique. C'était mon beau Florence Zimmermann, psychologue et psychothérapeute. Ça coince souvent avec beaux-frères, belles-sœurs, ou c'est anecdotique pour vous dans la pratique ?
Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des tensions, donc c'est vrai que les rivalités qui existaient peut-être déjà dans la famille peuvent être reproduites avec le couple, le nouveau couple et le conjoint. Parfois d'ailleurs lui-même peut être plus visé dans les attaques, donc c'est des attaques qui peuvent être détournées sur le beau-frère ou la belle-sœur plutôt que sur le frère ou la sœur.
Ah oui, c'est-à-dire qu'on envoie son frère ou sa sœur, on n'ose pas s'en prendre à lui parce qu'il y a les liens du sang, parce qu'il y a la cohésion familiale, donc on y va par le beau-frère. C'est intéressant comme schéma.
Ce qui est parfois une récupération aussi du frère ou de la sœur. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'à mon avis, ce type de problème qui peut créer effectivement des tensions dans le couple est quand même moindre par rapport au problème qu'il pourrait y avoir si la difficulté se situe avec les beaux-parents. Là, on voit vraiment apparaître de gros problèmes.
Au sein du couple.
Au sein du couple.
Alors que si c'est juste avec un frère ou une sœur, on arrive à s'en arranger.
Oui, je pense que dans la vie, en fait, on peut même rompre dans ses relations avec ses frères et sœurs sans que ça soit gravissime. Par contre, rompre avec ses parents est beaucoup plus problématique.
On fait la fête aux belles familles ce matin. Vous vous entendez comment avec votre belle famille ?
Ça va, pas trop mal, non, bien.
Vous allez passer quelle partie des fêtes avec eux ?
Le 25 décembre, ouais. Puis ça, ils tiennent, ils le tiennent. Et puis nous, ben moi j'étais à voir mes parents le jour d'avant, puis voilà. C'est clair, le 25 c'est chez les beaux-parents, le 24 c'est on se partage entre mon frère et moi pour inviter mes parents.
Quelle est la personne dans votre belle famille à laquelle vous tenez le plus ?
Certainement ma belle-sœur, ouais.
C'est un petit peu comme une sœur ?
Une grande sœur, ouais, pourquoi pas.
Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours, mais je te les rendais.
Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en chanson. Et mes rêves, et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson.
C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi.
C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. Ma candeur et mes 20 ans avaient su t'émouvoir. Je te couvrais de fleurs. Mais quant à mon firmament, j'ai vu des nuages noirs. J'ai senti ta froideur.
Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Je suis sous ton charme, souvent tu m'émerveilles, mais parfois tu m'oublies.
C'est ma vie, c'est ma vie.
Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi.
C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis.
Sur scène, je trouve ma patrie.
Dans tes bras, je suis bien.
Le droit d'être triste quand parfois j'ai le cœur gros, je te l'ai sacrifié.
Mais devant toi, j'existe, je gagne le gros lot, je me sens sublimé. Ma vie, c'est ma vie.
Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi.
C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. C'est ma vie,
c'est ma vie. Je n'y peux rien.
Bonjour monsieur, on fait la fête aux belles familles ce matin.
Ah oui.
Noël approche, vous allez fêter Noël avec votre famille ou votre belle famille?
Non, avec la famille, la famille directe, quoi, si on veut, pas avec la belle famille. Mais eux, ils habitent au Tessin.
Quel cadeau est-ce que vous allez offrir à votre belle-mère?
À ma belle-maman, qu'est-ce que je vais lui offrir? Aïe.
Vous ne lui offrirez rien.
Non, je lui offrirai quand même quelque chose, mais en principe, on se concerte toujours avec mon épouse, quoi. Il faut non plus pas heurter la susceptibilité des belles-mères non plus.
La vôtre est susceptible?
Ouais, très, faire très, vous savez, c'est langue latine, hein, les latins sont très chauds, très bouillants.
Donc je résume, votre belle-mère, vous en avez une et vous la ménagez.
Oui,
pour la paix du ménage.
Voilà, exactement, pour la paix du ménage, exactement, vous avez raison. On choisit l'épouse, pas la belle-mère. Hein.
Bien s'entendre avec sa belle-mère, de la part du beau-fils, c'est possible à votre avis?
Oui, oui, il faut un peu passer de la pommade, et puis après ça va, quoi.
C'est ce que vous avez fait au début?
Il faut se montrer prince charmant, puis après on voit les affinités qu'on a, puis après le reste on laisse de côté, quoi, puis voilà.
La présence des belles familles dans la Smala ce matin, un sujet d'études sociologiques, on l'a entendu tout à l'heure avec Nicolas Jonas, qui a pu constater dans ses différentes études, alors vous confirmerez peut-être par la pratique de votre cabinet, Laurence Zimmermann, que toutes les familles ne sont pas à égalité de traitement. Dans la majorité des cas, on voit que les liens du couple sont en priorité tissés avec la famille de madame.
Normalement, on est dans un système de parenté indifférencié. Donc, aucune des deux parentés, que ce soit celle de l'homme ou de la femme, ne peut prendre légitimement le pas sur l'autre, ne peut être favorisée légitimement. Alors le problème, c'est que dans les faits, on voit bien que la parenté de la femme est favorisée par le couple. Et ça pose d'énormes problèmes déjà au sein du couple, hein. Il faut que l'homme soit d'accord pour cette gestion inégale. Et puis ça pose des problèmes avec la parenté de l'homme, qui n'accepte pas d'être lésée de cette façon-là par le couple. Donc il y a tout un ensemble de stratégies qui sont mises en place par le couple, pour essayer de donner l'illusion, en tout cas, d'égalité entre les deux lignées.
On privilégie malgré tout, toujours, Nicolas Jonas, la famille, à sa belle famille.
Oui, alors c'est vrai si on regarde, par exemple, les échanges, les aides que l'on fournit aux membres de la parenté, hommes et femmes, donc quel que soit le sexe, on a tendance à aider davantage sa propre famille que sa belle famille. Mais on observe une différence par contre nette entre hommes et femmes sur l'intensité des aides qui sont données aux membres de la parenté, à savoir que les femmes aident plus leur famille que les hommes n'aident leur propre famille, et les hommes aident plus leur belle famille que les femmes n'aident leur belle famille.
Les belles familles sont souvent raison de conflits, Nicolas Jonas?
Alors, oui, mais surtout à des moments particuliers du cycle de vie, où on va voir les beaux-enfants qui risquent d'être mis sur la touche par la belle-famille. C'est notamment le cas au moment d'héritage, où on refuse le plus souvent tout droit de regard de la part des beaux-enfants ou des beaux-frères-belles-sœurs. Et là, c'est souvent un moment de violence symbolique extrêmement, extrêmement fort, où on se sent... où on peut se sentir exclu, rejeté d'une famille, de cette deuxième famille avec qui on a pourtant tissé des liens depuis des années.
Est-ce que la notion de pièce rapportée fait sens? Parce que c'est vrai qu'on se dit souvent ça, enfin dans le langage courant, on se dit voilà, je suis une pièce rapportée dans la famille. Est-ce que ce mot-là, sociologiquement, vous l'avez étudié? Est-ce qu'il fait sens auprès de ceux que vous avez interrogés, Nicolas Jonas?
Oui, alors il fait sens surtout pour les individus qui ne se sentent pas totalement intégrés dans leur belle famille. Être une pièce rapportée, enfin, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On n'est pas tout à fait membre de droit de la famille, hein. On l'est de façon indirecte, on va dire, de façon presque artificielle. Après, c'est souvent utilisé aussi par les personnes que j'interroge comme un moyen de se donner une liberté avec la belle famille. Étant donné qu'on est une pièce rapportée, on a le droit, en tout cas au début, à un peu plus de maladresse, on a le droit à un peu plus de souplesse, on va dire, dans les règles de la famille. Donc on accepte le rôle un peu de trublion, on va dire. Et d'ailleurs, on remarque que la plaisanterie est un mode de communication très utilisé avec les pièces rapportées. Ça permet un peu de désamorcer toutes ces situations qui sont pas évidentes à gérer au départ, où on met un peu les pieds dans le plat, où on est un peu en délicatesse avec les règles traditionnelles de fonctionnement de la famille dans laquelle on arrive.
Nicolas Jonas, sociologue, observateur des familles et des belles familles, j'ai envie de vous poser encore une question, c'est comment est-ce qu'on devient un membre à part entière d'une famille? Est-ce qu'il y a une sorte de grille de lecture qu'on peut essayer de déterminer? Vous l'avez?
Là encore, le poids des histoires individuelles est déterminant, mais on va dire qu'il y a deux éléments qui peuvent jouer de façon importante. La première, c'est le rôle clé de la belle-mère, qui a un peu, on va dire, une possibilité d'arranger les angles, de gérer les différentes relations entre ses enfants, ses beaux-enfants, etc. Donc, qui peut vraiment être la pierre angulaire de la bonne intégration. D'ailleurs, on remarque qu'en cas de décès de la belle-mère, la fréquentation avec la belle-famille diminue brutalement. Et deuxième élément qui peut être important, ce sont les épreuves de la vie. Au cas où on doit faire face au sein de la belle-famille à un événement difficile, je ne sais pas, un décès,
une maladie, oui.
Chômage, dans ce cas-là, on peut être amené à jouer un rôle important et donc à être investi d'une espèce de légitimité dans sa belle-famille. Et dans ce cas-là, on est vraiment considéré comme un membre à part entière.
Dites-moi, vous aimez bien ça, la blanquette, vous, non?
Pourquoi il dit ça?
Non, parce que, excusez-moi, mais j'ai l'impression, qu'est-ce qu'on a mangé la dernière fois chez ta mère, là?
Ah oui, dis donc, ouais. C'était la blanquette de veau.
Ah,
c'est
ouais.
Drôle, ça.
Mais qu'est-ce que je veux dire, vous en faites aussi quand on n'est pas là ou vous essayez de varier aussi un peu les menus ou,
Avec ta mère qui veut toujours qu'on rapporte les restes de la blanquette quand on rentre le dimanche soir à la porte Champéret.
En tout cas, maman, t'es tombée pile parce que Jean adore la blanquette de veau. Hein,
ça, moi.
Hein, Minou?
Ah ouais, j'adore ça en tout cas. Enfin, j'en ai mangé des meilleurs aussi. Hein.
Jean.
On n'est pas venu ici pour bien manger, hein, ça se saurait quand même.
Bah, non, maman, moi je suis venue pour te voir.
Ah. Bah moi non. T'as l'air, pourquoi je suis venue moi?
Un grand classique, un gars, une fille, avec l'image qui se précise de plus en plus. Laurent Zimmermann, on a avancé dans la belle famille. Et maintenant, plan resserré quand même sur la belle-mère. Personnage emblématique, mais ce qui n'a rien d'étonnant finalement, puisqu'on le disait tout à l'heure, on l'a bien compris, ce sont les femmes essentiellement qui s'occupent du relationnel dans les familles.
Oui, c'est vrai que c'est elle qui organise les repas, les invitations, qui contacte voilà, les amis aussi. Mais c'est vrai aussi que pour le conjoint, c'est important, et pour le couple, de rester un peu en dehors, de marquer quand même,
le cordon à un moment,
de marquer quand même des frontières, justement. Et le conjoint est là aussi pour aider enfin, à sortir de sa famille. Hein. Donc c'est important qu'il soit à la fois intégré, mais pas complètement absorbé. C'est à la fois la responsabilité des enfants de partir, de quitter la famille, comme la responsabilité des parents et des beaux-parents de laisser faire, de laisser partir.
Est-ce que c'est une cause de divorce? Dans ce que vous analysez, vous, est-ce que ça peut aller jusqu'au divorce, rapports tendus avec la belle-famille?
Alors, les rapports tendus avec la belle-famille, pas uniquement, c'est-à-dire la difficulté pour l'un des conjoints, ou voire pour les deux, à vraiment s'individuer et à favoriser, à privilégier le couple par rapport au rapport avec sa famille.
Je ne sais pas si vous aviez vu passer ça, c'était au mois de novembre. Un tribunal en Italie a annulé un mariage pour cause de belle-mère envahissante. Au mois de novembre donc de cette année, le mariage avait duré que 4 mois, ça a été l'enfer. Après notre séparation, dit le jeune divorcé, j'ai pensé à rencontrer une orpheline comme nouvelle épouse, tellement l'idée d'avoir une nouvelle belle-mère lui paraissait insupportable. Il y a un mode d'emploi, Anouk Mertz, des belles-mères idéales, c'est peut-être un livre de Christiane Collonge.
Effectivement, Christiane Collonge, journaliste, écrivain et mère de familles nombreuses, connaît bien les belles-mères. Elle a consacré toute sa carrière aux problèmes de société, aussi essayé de promouvoir un tout petit peu la femme moderne, notamment la position qu'occupe la belle-mère et les belles-mères. Alors elle y connaît quelque chose, hein. Elle est mère de 4 fils, donc elle a pas mal sué aussi à certains moments de sa vie, dans ses relations à ses belles-filles. Elle était l'invitée de la Smala en février 2001, extrait d'une interview de Martine Galland.
Il faut reconnaître que les belles-mères font des erreurs. Et cette erreur, justement, c'est d'essayer de considérer que les conjoints de nos enfants, les conjointes en l'occurrence, sont comme nos enfants. Non, ce sont les enfants d'autres familles, qui entrent dans la nôtre, mais avec leur passé, leur histoire, leur personnalité, leurs valeurs surtout. Et nous ne pouvons pas les annexer. Il faut respecter tout ce qu'ils ont reçu et qui représente leur personnalité le jour où, à 25-30 ans, c'est-à-dire que ce sont déjà des personnes adultes et formées, on ne peut pas les influencer tellement. Il faut prendre ce qu'elles ont à nous apporter.
Oh, c'est pas pour dire, Bernadette, mais t'as de la chance d'avoir une belle-mère gentille et discrète comme moi. Bavarde. Ah oh, bah forcément, toi, tu te tais pour deux. Alors moi, je parle pour trois.
Je crois que toutes les belles-mères sont en second plan. Et je dirais que la sorte de mélancolie qu'elles éprouvent, cette espèce d'impression de reculer un peu dans la vie, est tout à fait logique. Car effectivement, quand leurs enfants fondent une famille, c'est ce que je dis dans le livre, les belles-mères, les beaux-parents deviennent le second plan. On est en réserve et on n'est plus l'essentiel. Or, ces enfants, quand nous étions jeunes mères, on nous a expliqué que ça représentait l'essentiel de notre vie, que c'était le moment le plus extraordinaire, qu'il fallait consacrer toute notre énergie et tout ce que nous avions d'amour et de ressources pour les élever, parce que c'était l'essentiel de notre vie. Et puis un beau jour, on nous dit « Bon, bah écoutez, maintenant, vous n'êtes plus l'essentiel de leur vie. Il faut accepter ce personnage de second rôle, comme on dit au cinéma. Bon, bien sûr qu'il faut l'accepter, mais qu'on ne nous dise pas que c'est facile à accepter. Il faut faire un travail sur soi, il faut beaucoup réfléchir et beaucoup se limiter pour en arriver là. Et ça n'est pas toujours facile, ça n'est pas un rôle facile d'être belle-mère. »
Crois-tu que je peux mettre la télé? Bah, elle a dit faites comme chez vous, hein. C'est bien que chez nous la télé marche tout le temps. Faut que je lui demande, faut toujours tout demander avec moi pour jamais.
Quelle belle-mère êtes-vous, Christiane Collange?
Écoutez, je fais des progrès. Je fais des progrès, plus j'ai de belles filles, plus je deviens une belle-mère adaptable. Et puis, c'est dans mon livre sur les belles-mères, ce que je dis, c'est il faut devenir une belle-mère zen. C'est-à-dire ne pas prendre entièrement sur soi et sur sa culpabilité tous les problèmes qui peuvent se poser dans vos relations avec vos enfants adultes. Vous savez, quand ils vous font la gueule, par exemple, aussi bien d'ailleurs les vôtres que leurs conjoints, on se dit « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Et puis très souvent, quand on réfléchit un peu, on s'aperçoit que c'est eux qui ont des problèmes. Ils peuvent avoir une dispute entre deux, ils peuvent avoir des soucis de profession dont ils n'ont pas envie de vous parler. On n'est pas toujours coupable de ce qui se passe, mais il faut s'adapter. C'est ça qui est passionnant avec les relations familiales, c'est qu'on ne sait jamais la suite de l'histoire.
Moi, si j'avais une belle-mère comme vous, je serais allée lui parler. On a l'impression qu'il y a un dialogue possible avec une femme comme vous, puis on découvre que ce n'est pas le cas.
Je ne crois pas que le fait d'avoir une connaissance intellectuelle et même culturelle des problèmes vous empêche d'avoir un ressenti personnel par rapport à ce qui vous arrive dans votre propre famille. Et ça, c'est très important. Vous savez, en France, on a cette expression qui dit cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Alors moi, j'ai été plutôt bien chaussée en matière de belle-fille, mais j'ai eu exactement les mêmes sentiments de perdre en partie les fils que j'avais adorés.
Bah oui, bah dis, c'est quand même moi sa mère, hein. J'étais là avant elle.
Christiane Collange, avec beaucoup de franchise, comme toujours, quand elle s'exprime. Nous, les belles-mères, c'était un livre paru il y a quelques années. Une belle-mère qui se veut zen. Laurence Zimmermann, je rappelle que vous êtes psychologue et psychothérapeute. Elles ne sont pas toutes comme ça, les belles-mères. Mais vous avez des belles-mères, d'ailleurs, qui viennent à votre cabinet pour vous dire que les rapports, finalement, on a perdu notre petit. J'ai perdu mon petit ou ma petite.
Ça, c'est déjà une prise de conscience. Les gens viennent avant cette prise de conscience. Je pense qu'à partir du moment où vous rendez compte, voilà, je suis en train de perdre mon enfant, ou il y a une distance que je dois accepter. Donc là, il y a déjà une prise de conscience et là, les conflits ou les zones de tension s'apaisent.
En matière de comptabilité, Anouk Mertz, il y a carrément des comptabilités qui se font du nombre de visites. Tu viens chez moi, tu étais chez des beaux-parents, en fait, etc.
Oui, oui. Alors, il y a des belles-mères qui tiennent un carnet du lait.
Bien sûr.
Alors, je suis tombée sur une dame qui se plaint vraiment régulièrement qu'elle ne voit pas assez ses petits-enfants parce que, ben, bien sûr, sa belle-fille les amène plus du côté de sa mère à elle. Donc, elle a l'impression vraiment qu'elle met une distance entre elle et son mari. Et elle en est venue à compter pour avoir un argument, à dire, ben, vous voyez, vous êtes allée tant de fois de votre côté et pas assez du mien. Et ce qui est assez représentatif en fait de la relation belle-mère-belle-fille, c'est qu'il y a un sentiment de culpabilité ou bien un retour sur soi où les belles-mères se disent « mais qu'est-ce que j'ai fait de faux pour mériter ça ?» Et il y a vraiment, quoi, il y a une non-compréhension, qu'il y a une distance plus ou moins normale qui doit se créer. Et c'est vraiment le...
C'est tout d'un coup, qu'est-ce que j'ai fait faux ? Qu'est-ce que j'ai fait faux ?
Voilà, donc là vous évoquez un problème que je trouve intéressant, c'est la différence effectivement des relations, enfin, ou de la quantité de relations qu'il y a entre la fille et sa mère et le fils et sa mère. C'est souvent les femmes qui éduquent quand même plus ou qui ont plus de temps à disposition avec leurs enfants et donc elles vont aller plus facilement vers leur mère, c'est clair.
D'ailleurs, c'est ce que va confirmer Nicolas Jonas, notre sociologue. Quand on parle de l'arrivée des petits-enfants, on voit que les cartes changent. Et ça va toujours un peu dans le même sens.
Ça la change. Alors, dans un sens positif, déjà, dans la mesure où, du coup, les beaux-parents entrent dans la parenté, on va dire, consanguine, c'est-à-dire qu'ils deviennent les grands-parents de nos enfants. Ça a une conséquence pratique très avantageuse, parce qu'au moins, on a une façon commode de nommer les beaux-parents. Parce que ça, c'est une question très difficile. On n'ose pas trop les appeler par leur prénom parce qu'il y a quand même une distance. On ne veut pas les appeler papa, maman parce qu'il y a une exclusivité de la filiation normalement. Dès qu'ils deviennent grands-parents, bah, on peut les appeler du nom que dont les enfants les appellent. Grand-père, grand-mère, papy, mamie, des choses comme ça. Donc au moins un avantage pratique certain. Par contre, le fait d'avoir des enfants peut induire... disons que c'est une des pierres angulaires des difficultés qu'on peut rencontrer avec la belle famille, parce que les enfants deviennent un enjeu, une espèce de représentation de la qualité du couple, et toute remarque qui sera faite sur les enfants pourra être très mal interprétée par le gendre ou la belle-fille.
Les liens des petits-enfants avec les grands-parents sont plus développés, en règle générale, si je vous ai bien entendu, du côté des grands-parents maternels que des grands-parents paternels.
Oui, et on peut l'observer sur deux plans. Le premier, c'est que lorsque on donne les enfants auprès des grands-parents pendant les vacances scolaires ou pendant les week-ends, on a plus tendance à les mettre du côté de la parenté de la femme. La même chose lorsqu'on a besoin que quelqu'un garde rapidement les enfants pour qu'on puisse se réserver une sortie en couple, par exemple, ou entre amis, on va avoir plus souvent recours à la mère de la femme qu'à la mère de l'homme. Ça tient tout simplement au fait que voilà, il y a plus d'affinité, on va dire, entre la mère et sa fille que entre la belle-mère et sa fille. Et deuxième point très important, c'est qu'on remarque aussi que les enfants portent le plus souvent la mémoire de la famille de la femme que celle de l'homme. C'est-à-dire qu'ils se sentent plus intégrés, ils se sentent plus redevables de la famille de la femme que de celle de l'homme.
Petits-enfants, sujet de rapprochement, Laurence Timmermann, mais aussi sujet de tension, puisqu'il faut bien que chacun soit conscient de son rôle dans l'éducation vis-à-vis des petits-enfants. C'est un problème qu'on avait déjà abordé dans la SMALA. Les grands-parents peuvent s'investir, oui, mais...
Voilà, c'est la responsabilité après de chacun de bien rester à sa place et de nouveau de fixer certaines limites. C'est-à-dire si à un moment donné ça dépasse ce qui est de l'ordre de l'acceptable, si le grand-parent, le grand-père ou la grand-mère commence à disqualifier, ce que de nouveau j'emploie ce terme, hein, à critiquer mais peut-être pas forcément ouvertement son fils ou sa fille à l'égard de son petit-fils ou de sa petite-fille, c'est clair que là, il faut remettre un petit peu, comme on dit, les pendules à l'heure. Il peut arriver que, de nouveau, à travers les petits-enfants, on voit que le fils ou la fille n'est pas vraiment individué ou n'est pas vraiment séparé par rapport à ses propres parents.
Donc,
le problème, après, va se retrouver, effectivement, avec l'arrivée des enfants.
Et puis, on donne les petits-enfants aux grands-parents comme des sortes de... Je sais que je t'ai fait de la peine en te quittant. Alors, je schématise vraiment. En quittant la maison, donc là, tout d'un coup, j'ai fait un bébé, donc je te le confie. Ça fait une sorte de jouet de compensation.
À l'extrême, ça peut arriver.
Ça peut arriver.
À l'extrême, ça peut arriver. Ou alors, peut-être, à l'extrême aussi, c'est tu m'as pas aimé ou j'étais pas assez bonne pour toi, mais peut-être je te fais un cadeau avec mon enfant, peut-être tu l'aimeras plus que moi. Ça aussi, ça peut arriver. Hein. Mais ça, c'est des situations plus extrêmes. Mais effectivement, on peut avoir des situations où quelqu'un avait de la peine à partir. Et en ayant un enfant qu'il confie à ses parents, se donne l'autorisation de prendre la distance. C'est des situations extrêmes et c'est des situations qui arrivent.
On fait la fête aux belles familles. Vous êtes papa ou vous êtes beau-père ?
Je suis les deux. 18 ans, je suis beau-père.
Qu'est-ce qui est différent dans les deux rôles ?
Le rôle de père, donc c'est un rôle principal. Mais beau-père, on peut se permettre plus avec les beaux-fils, tout ça. Ouais, puis des fois, c'est plutôt le contraire. Ma fille n'est pas d'accord avec certaines décisions que je prends avec mon beau-fils. Mais, bon, disons, ça va parce que je ne le vois pas souvent quand même.
Ouais. C'est pour ça que ça va bien.
Voilà.
Retour de la Smala dans quelques secondes, juste après cette information routière.
Infotrafic, RSR.
La route principale Lausanne-Vevey est toujours fermée dans les deux sens dans le village de Riva suite à un accident. Une déviation est en place.
La Smala.
La Smala.
Too many people got nothing to eat while the rich man a feast on his kill. Too many people got blood on their hands thinking there's nothing else they can do. And you go about your day thinking it's okay. Won't hurt you now if you just look away.
Belle famille, c'est peut-être la chance de découvrir ce que sa propre famille nous a pas apporté. Quelque chose de différent qui permet peut-être d'analyser avec recul ce qu'on a vécu soi-même quand on était dans sa propre famille. On voit de manière différente ce qu'est une famille. D'autres règles, d'autres jeux, d'autres codes, d'autres manières de se construire, la relation les uns avec les autres, les dépendances entre fille, fils, père, mère, fils, fille. Donc belle famille ou famille, il n'y a ni mieux ni moins. Enfin, c'est juste différent et puis ça permet de comprendre des choses qui n'étaient pas forcément visibles avant.
Il s'appelle Eric, c'est au micro d'Anouk Mertz qu'il va parler de sa belle famille ce matin. Il faut dire qu'Eric est un homme qui va plutôt bien, parce qu'on avait envie d'avoir quand même quelques cas de famille, ou anecdotiquement, ou de manière un peu plus grave. D'ailleurs, ça se passe pas bien, et puis c'est une galère sans nom, Anouk.
Oui, alors ça a été une galère sans nom, je pense qu'on peut le dire. Impossible
de
trouver.
Vous avez tout essayé.
J'ai tout essayé, j'ai eu un nombre de pseudos sur les forums hallucinants pour remonter les chaînes. Heureusement qu'il y a les réseaux Facebook aussi pour essayer de trouver des gens, mais impossible à chaque fois. Pourtant, des situations critique et tendue, il y en a à l'appel. Mais à chaque fois qu'on essaye d'entrer en matière, on sent bien qu'il y a la peur de dire les choses, de les mettre sur la table, peur de froisser le conjoint, peur de faire une gaffe vis-à-vis de la belle famille, parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a peu de choses qui sont dites, quoi. C'est quelque chose qu'on garde pour soi, et même s'il y a des tensions, on essaye de faire avec, alors que l'animosité, elle a l'air assez énorme.
C'est vrai ça, Laurent Zimmermann?
Alors, parce qu'on essaye au contraire de faire en sorte que ça fonctionne bien, ça suppose un certain courage, d'énoncer certains conflits, d'affronter l'un ou l'autre pour résoudre finalement les conflits. On espère, mais on n'en est pas toujours sûr. On a parfois peur, au contraire...
Que ça fasse tout exploser, que rien ne se construise.
Que ça aggrave les choses plutôt que ça les améliore, oui.
Alors, il s'appelle Eric, votre témoin, donc et pour lui, tout va bien.
Tout va bien. Il a une relation assez idéale qui fait en tout cas envie. Il a 32 ans, professeur de français et d'histoire. Donc, il a aussi un besoin de comprendre les choses et une relation toute particulière, autant avec son beau-père, sa belle-mère, avec énormément de respect et de complicité.
Et ça fait une dizaine d'années qu'il est avec ça.
Dizaine d'années qu'il est en relation avec son ami. Et je lui ai posé la question, comment ça a été la première rencontre, le premier rendez-vous avec sa belle-famille?
Mais au début, c'est un peu décapant parce qu'il faut... C'est un peu la logique du Karcher, mais il faut découvrir, faut apprendre, faut être patient, faut... Puis ça vient pas d'un coup, quoi. Au début, on est un peu... on est dans l'expectative, comme ça on attend que les choses se construisent, et puis... Puis après, on remarque que finalement, c'est une manière d'être, et puis qu'on arrive à se sentir très bien. Et puis forcément, on a envie de l'accueillir, de le connaître, et puis, puis ça se fait très bien. Et puis il y a beaucoup de moments de partage, on finit par parler de choses, hein, mais tout en gardant toujours les distances, puisqu'on n'est pas, le fils ou la fille d'eux, on est bien différents, mais en même temps, ça permet de se... Ouais, il y a une relation qui est créée, et puis une relation qui est saine, qui est bonne quand elle est consciente de ce qu'elle est.
Tes parents, ce sera peut-être des professeurs de lettres branchés sur France Inter et qui votent pour les Verts chez tes parents. Dans ce cas-là, y aura Télérama, un album sur Colette et le chauffage à 17.
Ah, les premiers rendez-vous, les premières fois. Même pas forcément une conscience d'aller chez la belle famille. Ou... C'était naturel, en fait. C'était automatique. Et puis, tout de suite, il y a une relation qui s'est mise en place et puis qui était tout de suite agréable. Et puis, il n'y avait pas vraiment de questions, de pression. Il y avait... Donc, ça s'est tout de suite très bien passé. Et puis, de leur part à eux, j'ai l'impression que c'était presque normal. Puis qu'ils avaient presque envie. Enfin, déjà pour le bonheur de leur propre fille. Et puis, de se dire que c'était que positif, quoi. Et puis, qu'ils avaient envie de montrer qu'ils étaient là. Et puis, de montrer ce qu'ils étaient. J'ai un caractère aussi où j'aime découvrir des gens nouveaux, des manières nouvelles. Je suis assez ouvert comme ça. Donc finalement, moi, j'ai attendu. Puis eux, ils ont aussi une grande capacité d'ouverture. Donc il n'y a pas eu finalement de point où les caractères s'opposaient. Ou... Puis voilà, disons que je ne suis pas non plus un être spécialement marginal ou différent. Enfin...
Vous, quelle relation vous avez avec votre beau-père?
Une relation qui a toujours été marquée par un profond respect. Et puis... par une curiosité aussi de découvrir un autre père, parce qu'on sait aussi qu'un jour ou l'autre, on est peut-être soi-même amené à être père, et puis dans son propre père, on va déjà chercher une forme de modèle qu'on ne trouve pas toujours. Et puis tout d'un coup, on découvre un autre père qui a élevé la personne avec qui on a la chance d'exister. Et puis là, on se rend compte qu'il y a quelque chose de différent, et puis tout d'un coup, on est déjà confronté à deux modèles forts, puisque c'est des modèles avec lesquels on est souvent confronté, donc... Puis c'est une relation où beaucoup de discussions, on aborde des sujets qui sont parfois durs, puis surtout une attitude qui permet d'être soi-même assez bien dans les choix qu'on effectue. Puis ça, c'était quelque chose que cette personne-là m'a apporté, et puis je pense que c'était tout à fait sain.
La mère d'Amandine, comment elle vous considère?
Enfin, moi j'ai beaucoup de plaisir, et puis on est très ressemblants, en fait, donc il y a... C'est un peu un modèle, parce que c'est une femme, je veux dire, en soi épanouie, c'est une femme qui réussit sa vie, je dirais, au jour le jour, et puis qui a du plaisir à vivre, puis qui a de la joie.
Et la mère d'Amandine ne vous regarde pas comme un troisième fils?
Non, alors je crois pas. Autant pour moi, c'est extrêmement clair, autant pour elle, ça l'est aussi. Enfin, forcément, par le fait qu'on a une relation de long terme avec l'un de ses enfants, il y a forcément à un moment donné... une relation qui se crée. Mais celle-ci, elle est jamais, on la confond jamais avec la relation qu'on a avec ses enfants. Je veux dire, déjà, j'essaie de maintenir le vouvoiement. Moi, je suis une personne qui aime le vouvoiement parce que ça maintient une distance. Puis ça maintient une distance qui est saine. C'est pas bourgeois, c'est pas une distance absurde. C'est une manière aussi de dire que moi, je suis là et que vous êtes là. Il n'y a jamais confusion.
Quelle influence elle a, cette belle famille, sur votre couple avec Amandine?
Une influence que positive, parce que elle est là, présente, mais en même temps discrète, puisqu'elle nous laisse complètement libres. On existe comme on est, sans chercher à poser des questions par rapport à l'avenir, par rapport à des futurs enfants, ou, enfin, je sais pas, une construction concrète de choses. Enfin, ça, Et puis ça, je trouve extrêmement positif. Donc moi, ça me donne une pleine confiance, quoi. Je me dis aussi un jour, voilà, si on est amené à vivre d'autres choses ensemble, enfin, c'est-à-dire peut-être dans le cadre d'une famille ou autre chose, j'aurai une pleine confiance dans le type de soutien, d'accompagnement dont il pourrait témoigner.
Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans la famille d'Amandine ?
Mais je pense que ce qui touche, c'est aussi ce à quoi on avait peut-être le moins l'habitude chez soi. C'est-à-dire déjà, ben justement, cette forme de grande qualité d'écoute et de partage par la parole, je dirais. Ça me fait penser à un truc, en fait, à un moment donné, enfin, on s'est quitté avec Amandine. J'en avais donc, bien sûr, parlé à mes parents sur le mode qui était le mode avec lequel je communiquais avec mes parents. Mais j'en ai aussi parlé avec son père. On avait eu un long téléphone, à peu près plus d'une heure de temps, en tout cas. Parce que la relation de confiance qu'on avait entre nous faisait qu'à un moment donné, je m'étais rendu compte que j'avais besoin de conseils ou d'avis parce que j'avais une crise à gérer et puis qu'au-delà du fait que j'étais plus avec Amandine, il y avait ce côté où j'avais l'impression de pouvoir comprendre quelque chose ou que ça pouvait être une aide pour moi de communiquer avec lui. C'était un bel échange, une belle communication et ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis aussi de voir qu'au-delà des épisodes un peu difficiles qu'on a à parcourir, il y a des gens qui sont là et puis qui montrent que derrière le brouillard dans lequel on est parfois plongé, il y a une forme de lumière et puis il y a une forme de combat qu'on peut maintenir et puis qui nous fera sortir de ce brouillard pour prendre du recul.
Mais tes parents, pourquoi pas, font du ski dans le Jura. Cinquantaine, ils s'éclatent à l'avant du 4x4. Si tes parents nous traînaient faire du golf au Touquet, peut-être que tes parents, on les verrait pas souvent.
Moi, je suis tombé amoureux d'une personne. Et puis c'est vrai qu'après, dans un certain sens, hein, avec tous les guillemets qu'il faudrait mettre là autour, peut-être aussi tomber amoureux d'une famille, c'est vrai. Parce que les êtres qui la composent sont des êtres que j'apprécie, sont des êtres que j'aime. Et puis au travers de la personne que j'ai rencontrée avec qui je vis, j'ai découvert une famille qui est vraiment, qui représente beaucoup à mes yeux. Voilà. Donc c'est pas forcément une forme de tomber amoureux, mais c'est quelque chose de positif, c'est comme un cadeau en fait.
Je suis prêt à tout pour que ça passe. Caresser leur chien dégueulasse. Ouvrir les boîtes de canigou. Chloé m'a tellement parlé de vous. Chloé m'a tellement parlé de vous.
L'incontournable chanson de Vincent Delerme sur Les Belles Familles. Laurent Zimmermann, quand c'est mal parti, parce qu'il peut arriver que ce soit mal parti, est-ce qu'on peut revenir à des relations plus saines, posées, des relations... on peut faire marche arrière ?
Oui, je pense. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les gens aussi nous consultent.
Bien en thérapie, oui.
Voilà. Je pense que la première chose à faire, c'est d'en parler au niveau du couple. On peut difficilement régler les problèmes avec sa belle famille si on n'a pas...
La solidarité de son
conjoint. La solidarité de son conjoint. À condition aussi que ces choses-là soient conscientes. Hein. Elles ne le sont pas toujours. Les couples ne savent pas toujours pourquoi ils se disputent. Donc, on est là aussi pour en parler. Et une fois que ces choses-là sont conscientes, et puis que des règles sont un peu établies au niveau du couple, alors je pense qu'on peut régler les problèmes avec sa belle famille en discutant, voilà.
Et puis aller se défouler sur Internet si on a vraiment envie de dire des choses abominables, il y a de quoi. À nous qu'on le redit sur la toile, il y a des forums entiers consacrés à des paroles de belles-filles, de beaux-fils, de belles-mères.
Enfin, les gens se lâchent, vident leur sac, parce que je pense que c'est un bon moyen, Internet, d'une manière anonyme, d'exprimer les choses sous couvert d'un pseudo, on craint pas le regard de la belle famille, du beau-père, de la belle-mère, de la belle-sœur.
Une sorte de défouloir, ça fait du bien ça aussi, Laurent Zimmermann, le défouloir. Avec les copines, dire du mal de sa belle-mère, ça fait toujours du bien.
Oui, savoir qu'on n'est pas seul, surtout.
Bon, merci beaucoup Laurent Zimmermann d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je le rappelle, psychologue et psychothérapeute. On mettra en lien les études de notre sociologue Nicolas Jonas qui a fait donc ses études sur la belle-famille en lien sur notre site à nous, rsr.ch, sur la page de la Smala. Et puis merci à Eric de nous avoir donné un si bel exemple de famille et de belle famille unie. Nous arrivons à la fin de la Smala, non sans vous souhaiter bien joyeux Noël, parce que nous serons de retour seulement le samedi prochain, donc Noël sera déjà passé. On sera avec vous samedi prochain pour un portrait, je vous conseille d'être à notre écoute, il s'appelle Claude Lonfa, c'est un homme pas comme les autres, un portrait signé Sarah Indiren. D'ici là, portez-vous bien, passez donc d'excellentes fêtes. Sur la première, il est déjà 11h.